si le sacrifice n'a pas eu lieu, c'est parce que, effectivement, on n'était pas. Le texte dit, le monde, l'univers qui entourait Abraham, n'était pas à même de pouvoir comprendre la signification d'un tel geste. Et parce qu'il n'était pas à même de comprendre la signification d'un tel geste, ce n'est pas Dieu lui-même qui a arrêté la main d'Abraham. Qui est-ce qui a arrêté la main d'Abraham? C'est l'ange. L'ange représente ici les valeurs de l'humanité à un moment particulier. L'ange lui dit d'arrêter, et le symbole, je veux dire, le fait devait se réaliser, mais non pas sur la personne d'Isaac, mais sur un substitut d'Isaac, c'est-à-dire qu'on devait marquer par un geste une idée qui devenait, comme on voudrait l'expliquer aujourd'hui, une sorte de mythe culturel dans lequel on doit exprimer la même chose, mais d'une manière un peu différente. D'ailleurs, j'ai conclu la dernière fois sur un midrash extrêmement intéressant, où Abraham, ne comprenant pas ce qui lui arrive, pourquoi est-ce que Dieu l'arrête ? Il ne comprend pas. Il dit, moi je suis venu ici pour le sacrifice, pourquoi est-ce qu'on m'arrête ? Est-ce que je ne suis pas à même de pouvoir faire comprendre, d'être porteur d'un tel message ? Et Dieu lui dit, mais non. Qu'est-ce que j'ai dit dans le texte ? Veha'alehu le'ola. Tu n'as qu'à le faire monter. Je ne t'ai jamais dit de l'égorger. Je t'ai dit simplement de le monter. Asakte, arte. Maintenant que tu l'as fait monter, tu peux le faire descendre. Si bien que, dans le texte, il y a ambiguïté dans la signification des termes, où le mot haraleu veut dire à la fois sacrifice et faire monter, et Abraham a bien compris que haraleu, ça veut dire faire le sacrifice qui était la première intention de Dieu, mais au moment où ça devait se réaliser, il a vu que le monde n'était pas capable de comprendre la signification et le sens d'une telle action, et bien à l'action, on a substitué le geste. C'est la signification des mitzvot. D'ailleurs, c'est la signification de tout acte juif dans la vie quotidienne où le geste porte en lui-même une certaine satisfaction, mais où on n'est pas à même de comprendre le sens profond de ce qui devait être. Voilà. En quelques minutes, je vous ai dit... J'espère qu'il y aura beaucoup de questions parce que je comprends que c'est difficile à faire passer. Hein.
Le nom de Yahvé, Dieu d'éternité. Ce Dieu d'éternité est une expression qui reparaît, vous le savez sans doute, dans Isaïe et dans Jérémie. C'est une expression prophétique et, à mon sens, parfaitement messianique. Abraham plante un arbre après ce chapitre 21, très important, où il est question de la scène de ménage entre sa femme et lui, à propos d'une autre femme et d'un autre fils, Ishmaël et Agar. Il m'a paru important de souligner que tout ceci ne se fait pas sans scène de ménage et qu'en quelque sorte Dieu, dans la Bible, a comme fonction de faire un peu le ménage dans les scènes de ménage, si je peux m'exprimer. Sarah, en effet, et Abraham ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon de traiter les fils. Et dans un premier temps, Dieu dit qu'Abraham doit obéir à Sarah. Et dans un second temps, après la fondation de ce nouveau sanctuaire, il est donc éprouvé par la personne de ce fils que j'ai appelé miraculeux, entre guillemets, puisque il est né dans les conditions tout à fait étranges d'un père de 99 ans et d'une mère de 90 ans. Ce qui me paraît extrêmement important pour le passage en question, dans la mesure où Dieu se mêle lui-même de la procréation en question, et qu'en conséquence, il est fondé, en quelque sorte, à éprouver cette procréation tout à fait anormale et paradoxale. C'est pour ça que je me suis permis aussi de dire que ce Dieu qui fonctionne dans la Bible, et est en quelque sorte un spécialiste de la génétique G-E-N-E-H-I-Q-E, c'est-à-dire le contraire même de ce qui semblerait positivement rationnel dans l'ordre de l'engendrement, il introduisait une gène dans l'éthique et une éthique dans la génétique. Ce qui précisément est probablement ce qui lui est reproché très profondément par tous les rationalistes, quels qu'ils soient, y compris le plus récent dans son abomination, qui est le rationalisme et le positivisme parfaitement généticien nazi. Je me suis permis aussi de dire qu'il me paraissait faux d'appeler le crime crapuleux des nazis du terme d'Holocauste, ce qui laisserait supposer que le criminel, en l'occurrence, serait habilité à faire un sacrifice au nom de Dieu. Le terme d'Holocauste est employé dans le chapitre 22 de la Genèse pour une épreuve qui me paraît en effet suspendre le règne de la mort biologique, de la même façon que le chapitre 21 suspend, enfin, les chapitres antérieurs, pour ce qui concerne la naissance, déjà suspend le règne d'une considération génétique positiviste, puisqu'il s'agit d'une naissance qui n'aurait pas dû avoir lieu, sous le nom d'Isaac lui-même. Eh bien, la Bible est justement ce texte fondamental qui suspend le sacrifice, qui refuse le sacrifice, qui refuse le meurtre du premier-né et le meurtre humain. Alors, au contraire, j'ai essayé de montrer que toutes les mythologies sont fondées sur un tel meurtre. Ce chapitre 22 est donc particulièrement important, à mes yeux, comme épreuve du nom de Dieu. Et ça n'est pas un hasard, à mes yeux, si cette épreuve du nom suit la fondation d'un nouveau sanctuaire qu'on appelle bien les lieux d'éternité, et si, d'autre part, c'est par l'appel du nom, Abraham, Abraham, avec la réponse inéni, me voici, on a parlé, M. Sirac, très brillamment, ce inéni étant le voici je, le je du sujet qui répond à ce je, J-E, de Dieu, qu'on retrouvera dans le buisson ardent, parlant de l'intérieur du feu qui ne consume pas le buisson à Moïse, je suis ce que je suis, je serai ce que je serai présent là où je serai présent, c'est ce je, justement, sujet, qui échappe à l'engendrement, à la mort, à la naissance, à la série des morts et des naissances, qui est celui qui parle Abraham pour suspendre définitivement le règne de la mort.
Bien, il est bien évident que ce premier tour de parole a d'abord pour objet de permettre aux différents conférenciers de se recoder les uns vis-à-vis des autres, mais je ne voudrais pas que cette table ronde se passe essentiellement dans une controverse entre le Maor HaShemesh et le Rav Dessler. Mais malgré tout, c'est ma première phrase très rapide. Avant d'arriver à l'essentiel des quelques phrases que je dirai en introduction, je voudrais faire une deuxième remarque. Je déplore, et je crois que je ne suis pas le seul, que Albert Yehoshua, qui a participé à la séance de dimanche, n'ait pas pu venir ce soir. Je vais me faire un devoir de le remplacer. Pour une raison élémentaire, parce que je crois que la dimension qu'il a développée, même si la forme avait été un petit peu, je dois dire, provocative, est une dimension nécessaire. Je déplore d'autant plus qu'il ne soit pas là que je crois que l'exposé du Rav Dessler, tel que notre ami David Messas l'a développé, nous fait comprendre contre quoi précisément Albert Yehoshua s'est opposé dimanche. Je voudrais dire très rapidement que sur le fond de l'opposition de Albert Yehoshua, je suis d'accord, si paradoxal ça puisse paraître, il nous faudrait des heures pour s'expliquer, mais je vais essayer de le faire très rapidement, même si sur la forme j'ai un certain nombre de réserves à faire, ça me permettra donc de me recoder aussi très rapidement sur l'exposé du Rav Dessler en visitant, en appel au secours, si j'ose dire, Isaïe et Jérémie. Mais une première remarque sur les présupposés de l'analyse de Albert Yehoshua. Il a dit très clairement et de façon, encore une fois, intentionnellement, je crois, par méthode un peu trop provocative, qu'il allait parler en tant qu'athée, qu'il ne croit absolument pas que la Bible soit un livre révélé, d'autant plus que d'autre part il ne croit pas que Dieu existe, vous vous souvenez de cela, je me borne à le citer. Et en ce sens, il a parlé d'un certain arbitraire, du fait qu'un père, au nom de Dieu, dans l'arbitraire, tout simplement parce que Dieu est Dieu, ait à envoyer son fils à la mort. Et il a dit qu'à son sens, s'il y avait une motivation au sacrifice en ce qui concerne l'identité d'Israël dont ce livre parle, ce ne pouvait être que une motivation nationale. Je ne sais pas comment lui la décrirait. À partir de ce moment-là, je commente ou j'interprète, c'est-à-dire de sauver coûte que coûte cette identité d'Israël lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle est en danger. Une remarque sur donc son présupposé. Je voudrais citer ici un enseignement fondamental de notre maître, Jacob Barbin, qui nous disait ceci. La Bible, c'est le seul livre qu'un homme n'a pas pu écrire, parce que le héros du livre, c'est le lecteur lui-même. C'est un cas particulier dans ce que l'on pourrait appeler la littérature, dans tous les sens du mot littérature. À un certain moment du texte, le nom dont il est parlé, le nom du héros dont il est parlé, quitte le texte et c'est moi, juif, un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et c'est pourquoi nous considérons qu'effectivement c'est le seul livre révélé. Parce que c'est le seul livre que personne n'a pu écrire, puisque le héros du texte, c'est le lecteur, et non pas sous la forme de l'imaginaire, de quelque littérature, symbolique de quelque mystique ou théorique de quelque philosophie qui parlerait de l'homme avec un grand H, mais qui n'est personne parce que c'est l'homme de nulle part et vous avez compris. Et bien, et ça, je veux vous le dire, en hébreu à l'alphabet Yoshua, mais j'espère qu'on se rencontrera à Tel Aviv, à Haïfa ou à Beersheba, et pourquoi pas à Jérusalem d'ailleurs. C'est telle sorte de nous en expliquer, c'est un autre problème. Mais sur le contenu de son cri de protestation, je crois pouvoir dire que je suis d'accord. À cause de dimension de ce problème, que peut-être auquel le Rav Dessler a pensé, c'est d'abord la dimension de ce que la mentalité chrétienne a fait de ces thèmes du sacrifice au nom de Dieu, en en chargeant la destinée du peuple juif, en racontant la crucifixion de l'identité du peuple juif pour le salut du monde au nom de Dieu, et que nous sommes les héros de cette histoire plus que tragique, plus que dramatique, eh bien, il faut protester. Et la manière dont Albert Yoshua a protesté, c'est sa manière à lui, mais pour ma part, je protesterai de la même manière, enfin d'une autre manière, mais avec la même force. C'est ce que j'essaie de faire hier soir, pour ceux qui ont assisté à l'analyse du sujet d'hier soir, en ce qui concerne cette dimension de la manière dont la conscience chrétienne a parlé de ces choses, et je crains que, pédagogiquement en tout cas au moins, le Rav Dessler dans son texte n'est pas tenu compte de cet aspect du problème. Deuxièmement, je ne sais pas comment dire cela, je répète exactement ce que j'avais dit lorsque nous avons programmé le sujet de ce séminaire, nous ne savions pas que le film de l'Holocauste allait passer cette semaine. Mais d'autre part, de ce que chrétien ou pas chrétien, et M. Soler l'a très bien rappelé tout à l'heure, risque d'utiliser cette alibi du sacrifice pour le salut pas le salut du monde, de cet alibi du sacrifice pour finir par justifier quelque chose d'absolument injustifiable. Mais j'en arrive très rapidement, avant que nous vous donnions, après ce premier tour de parole, précisément la parole pour que vous posiez vos questions. Pour le moment, nous répondons aux nôtres. Dans le contenu des choses, et en abordant très rapidement à vous citer ces deux versets. David Messas a très bien dit tout à l'heure, le texte est écrit et il doit se lire à la lettre. L'épreuve à laquelle est soumis Abraham n'est pas symbolique. L'épreuve est une épreuve. Il a vraiment été mis à l'épreuve, il en a souffert dans son amour pour son fils, dans son incompréhension de ce que Dieu subitement semble lui demander, c'est cela que lui a entendu. Mais dans le fond des choses, que dit la tradition biblique, que dit la tradition juive du thème ainsi précisé? Que Dieu aurait demandé l'acte de la mise à mort de Isaac. Eh bien, elle répond non, et ce n'est pas moi qui parle, c'est Isaïe et Jérémie que je vais vous citer très rapidement. Premièrement, un verset de Jérémie, qui est le verset 31 du chapitre 7, et lorsqu'il parle de cette piété en torsion, je ne sais pas comment on dit cela, je ne veux pas dire gauchis, mais de cette torsion de la piété, de ce raté de la piété qui est l'idolâtrie, et qui en toute bonne foi de piété très intense avait inventé ce rite du sacrifice du Fils pour la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Et vous voyez, de quel type d'arbitraire un homme qui n'a pas lu la Bible en hébreu, qui ne l'a pas lu comme nous la comprenons, nous les croyants de la Bible, comme un livre révélé qui nous explique notre histoire en tant qu'homme et en tant que juif centralement dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, voilà ce que dit Jérémie, il le dit à trois reprises dans cette prophétie, mais je ne citerai qu'un verset. Et ces hommes, dans l'erreur de leur piété, c'est moi qui interprète en préface, « Banu bamot atofet » et ils ont construit les autels de l'abomination, « Asher begeh ben Hinnom » qui se trouve dans la vallée du fils de Hinnom, vous savez que c'est de là que vient le mot de Géhenne, la gêne, étymologiquement, être dans la gêne, c'est être dans la gêne. Au XVIIe siècle, les mots avaient leur sens fort, le Gehinnom, pour brûler, Isro, pour brûler, et Bnehem et Bnotehem, leurs fils et leurs filles, Baesh par le feu, dans leur piété, c'est moi qui ajoute, Asher Lotziviti Velo Alta Alibi, chose que je n'ai pas ordonnée et à laquelle je n'ai jamais pensé. Et Rashi intervient, Rashi est bien antérieur au Rav Dessler. Et Rashi intervient dans son commentaire, il dit très exactement ceci. Asher lo tziviti, chose que je n'ai pas ordonnée, ba mitzvot, dans aucun des commandements je n'ai demandé cela. Sheyakrivu bnehem la korban, qu'on sacrifie ses enfants en sacrifice. Les mots ayant leur sens fondamental, c'est-à-dire l'acte de mise à mort. Et je n'en ai jamais parlé de cela à aucun des prophètes. Ou que j'ai dit Bartil et Abraham, et Rachid sans notre sujet. Et lorsque j'ai parlé à Abraham, l'Ishrod et Beno, de sacrifier son fils, et là le mot l'Ishrod, c'est la Shrita, l'égorgement. Lo alta alivi chez Ishrod, je n'ai jamais pensé à lui demander qu'il le sacrifie. Et là le odia tzitko. Mais, il s'agissait d'une épreuve pour dévoiler, faire connaître, témoigner de sa vertu. La Rachid est claire. Par conséquent, nous sommes renvoyés au texte. Bon, eh bien, il y aura la Chita de Rachid, c'est-à-dire de Jérémie. Et puis cette autre Chita.
Mais attends, bon, je vais essayer de.
Donc, voilà un premier exemple. D'autre part, deuxièmement. En me référant, si vous voulez, au. Et par conséquent, sur le contenu de cette remarque, c'est pour dire à quel point, en tant que croyant, je suis d'accord avec la révolte de Alephet Yoshua devant ce qui serait une fausse conception. Ça ne vient pas de la Bible des Hébreux. Au fond, Alephet Yoshua s'est révolté contre une projection étrangère de ce que la Bible des Hébreux a dit de ce thème dont nous parlons. Et le deuxième verset me permettra de me relier à une question qui m'a été posée hier soir par une dame qui assistait à la conférence d'hier soir, chrétienne, et qui s'est présentée comme telle, et lorsqu'elle avait dit que Dieu s'est fait homme pour pouvoir connaître, savoir ce que c'est que la souffrance des hommes. Et elle disait cela en réponse à l'exposé que je ne reprendrai pas, parce que je n'aurai jamais le temps, mais si vous avez des questions, nous essaierons de nous recoder. Dont l'idée essentielle était ceci. La conscience chrétienne a précisément projeté le mythe d'un sacrifice accompli sur l'histoire d'Israël pour le salut du monde. Et c'est cela l'essentiel du récit de la Passion. Et j'avais eu à dire, et je le répète, parce que je crois que c'est un point important. La conscience chrétienne croit dans sa croyance que Dieu s'est fait homme. C'est ce qu'elle dit. Dieu s'est fait homme pour pouvoir savoir ce qu'est la souffrance des hommes. Mais, en réalité, ce qu'elle croit est un peu différent. Elle croit que Dieu s'est fait juif pour savoir ce que c'est que la souffrance des hommes. Et c'est ce récit-là qui est raconté dans le récit de la Passion. Je voudrais répondre à cela, ces thèmes que je résume vraiment très brièvement, nous les avons étudiés en détail dans les séminaires de texte du matin, c'est le verset 9 du chapitre 63 d'Isaïe. J'avais dit ceci, et c'est là que je conclurai cette brève introduction, Dieu n'a pas besoin de se faire homme à l'intérieur d'un mythe qui justifierait par la volonté de Dieu le sacrifice du fils aîné, c'est-à-dire Israël, pour le salut du monde, parce qu'il n'a pas besoin de se faire homme pour savoir ce que c'est que la souffrance humaine. En compréhension de la foi hébraïque, Dieu est Dieu, et ça suffit pour qu'il sache tout ce qui se passe dans son monde. Voici ce que dit le verset. « Bechot tsaratam lo tsar »« À toutes leurs angoisses, c'est à lui qu'est l'angoisse. »« Ou malach panav oshiram »« Et l'ange qui vient de sa face les sauve. »« Be'ahavato prémato » dans son amour pour eux et dans sa compassion pour eux. Et chaque fois que l'humanité entière, dans son cœur Israël, souffre, Dieu sait ce qu'est cette souffrance et il envoie son ange pour arrêter la souffrance. Exactement comme dans le cas du récit du sacrifice d'Isaac, ou à mon sens, ce n'est pas parce que l'humanité ne comprenait pas ce qui se passait que c'est un ange, c'est-à-dire la mentalité de l'époque, qui a arrêté le sacrifice, c'est Dieu qui a envoyé son ange, c'est Isaïe qui parle ici. Les mêmes termes sont employés. Yeah. Et nous n'aurons jamais le temps, bien entendu, de vider une telle controverse, parce qu'il y a, il faut le savoir, des chitotes, des méthodes, des directions de lecture différentes, mais je crois, et David sera, je l'espère, d'accord avec moi, qu'il y a quand même, pour une conscience traditionnelle, juive, hébraïque, une hiérarchie des principes d'autorité. Rachi est beaucoup plus haut, Jérémie est encore beaucoup plus haut, et Isaïe beaucoup plus haut, et l'hébreu est écrit en hébreu.
Non, tu as raison, mais moi c'est. Non, on va expliquer un certain nombre de choses pour notre.
Oui.
Ah,
c'est
Je tiens à signaler que monsieur le professeur Sirat, qui a présidé la première séance du séminaire, a bien voulu nous faire l'honneur d'assister à cette soirée, et je lui cède tout de suite la parole.
Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais remercier Manitou d'avoir rappelé l'intervention d'Albert Yoshua, qui a été l'un des moments de la soirée du dimanche, et d'avoir pu objectivement présenter la thèse d'Albert Yoshua. Nous regrettons, je regrette avec lui, qu'Albert Yoshua n'ait pas été là pour répondre aux nombreuses questions que vous avez pu lui poser, et d'autant plus que je l'avais promis au nom des organisateurs, puisque nous avions dit dimanche que ce soir, la salle aurait la parole. Et comme nous avons le devoir de tenir nos promesses, il faudrait donc que le tour de parole de la tribune nombreuse, se termine assez rapidement pour que vous ayez effectivement le temps de réagir. Je voudrais donc très brièvement, non pas revenir sur l'analyse que j'avais proposée en ouvrant le séminaire, sur le thème de l'inémie, et M. Soler a bien voulu s'y référer tout à l'heure, sur cette disponibilité de l'homme vis-à-vis de Dieu, sur la réussite de l'épreuve lorsque l'homme dit à Dieu l'inémie, c'est le cas d'Abraham, c'est le cas de Jacob, c'est le cas de Moïse, c'est le cas de Samuel, et l'échec de l'homme lorsqu'il dit l'inémie à un autre que Dieu, c'est l'échec d'Ésaü, c'est l'échec de Joseph, c'est l'échec du Pharaon, c'est l'échec de Bilam. Un échec peut-être encore plus marquant est celui de Adam, lorsque Dieu lui a dit « Aïeta, où es-tu ?» Et Adam a essayé un faux fuyant en disant « J'ai entendu ta voix et je me suis caché. » Je l'enverrai tout à l'heure, je ne sais pas d'entre vous, je pense que c'est là dimanche, et vous pourrez répondre tout à l'heure les questions qui peuvent être posées sur ce thème. Je voudrais très brièvement, puisque je me suis référé au premier verset du chapitre 22 de la Genèse, au verset de la Akeda, Bahi Achar al-Banumaël, je me référerai au dernier verset maintenant de la Akeda. Le dernier verset semble lui aussi composé de mots très simples. Vayashov Abraham et Néarav, Vayakumu, Vayelchou Yachdam et Beershava, Vayeshev Abraham et Beershava. Donc, regardez le jeu entre Vayashov et Vayeshev. Abraham revint vers ses serviteurs, ils se levèrent et partirent ensemble vers Beershava, et Abraham s'installa à Beersheba. Cela pose à nous pose énormément de problèmes d'ordre exégétique. D'abord, parce que Abraham n'a pas tenu sa promesse.
avait dit, vous vous souvenez, Benishtaravim, Benashuva Alechem. Il a dit aux serviteurs qui les avaient plantés là, au bas de la montagne, nous allons, mon fils et moi, nous prosterner et nous reviendrons vers vous.
Nous avons parlé. lorsqu'on veut véritablement s'installer, lorsqu'on croit que toutes les épreuves sont la chance infinie, c'est déjà le cas pour Jacob, ce sera plus tard le cas pour Jacob. Lorsque Jacob pense que toutes les difficultés avec Isaïe, toutes les difficultés avec la mort, toutes les difficultés de son existence, toutes les difficultés des filles sont maintenant derrière lui, lorsqu'il veut véritablement s'installer dans le pays de la promesse, lorsqu'il croit que ses tout enfants vont être autour de lui, c'est à ce moment-là que véritablement commence l'épreuve. C'est à ce moment-là précisément que commence l'histoire de la jeune fille entre Joseph et ses frères. Vous voyez, chez Abraham et Père Shéra, immédiatement après, c'est la mort de la compagne. Vous voyez, vous, Raquel, Sarah, Péa, Chaman, ainsi pour cela, Péa, Chaman. Lorsque Abraham croit que finalement, maintenant, il va trouver des jours paisibles avec son épouse, et il va pouvoir lui expliquer qu'effectivement, le danger est écarté à propos de leur fils unique, on va s'en retrouver chez lui. Il y a une dispose de Sarah qui est là, et pour pleurer, Sarah est en train de là, pour le voir. Il fait un peu des versets, il paraît tout à fait simple. Nous avons véritablement l'ensemble des problèmes qui ont été posés après l'acte. Nous avons vu dimanche, le début de l'acte, les problèmes d'après l'acte. Mais une intervention miraculeuse, Al-Dishla Piatra et Lola ne portent pas la main sur l'enfant, mais les problèmes d'après l'acte. Et donc, je pense que je voudrais, à ce moment-là, arriver là, je crois que. Il faut parfaitement se rendre compte que la fin du récit en passe très bien sûr au thème fondamental du récit. Les réarrivés, l'absence bizarre, je retrouve un père chez un, je pense que le plus marquant pour un frère,
n'a jamais été ou de soleil à l'irecho. Ça a été simplement un songe, et que ça a une signification symbolique, etc., etc., mais la chose ne s'est jamais produite. Comme ça dit Maïmonide. Et il est repris avec une telle sévérité, c'est pas la peine de... Si vous prenez les textes, vous verrez que c'est extrêmement grave, la lutte était acerbe, entre Nachmanide et Maïmonide, et il a dit... que c'est impossible que l'on puisse expliquer les choses de cette manière, elles ont leur valeur symbolique, mais elles ont leur valeur réelle, et que les choses se sont passées exactement de cette manière. Vous voyez que les problèmes sont beaucoup plus anciens que ce que vous voyez ce soir ici devant vous. Mais n'empêche que le texte dit dans Rashi, encore Rashi, qui dit et explique dans une Gemara fort bien connue, « Uminou venechem min ha-higayon » Minou benechem min ha-higayon, ça veut dire éviter que vos enfants fassent du higayon. je ne veux pas traduire le mot à mot, le Higayon, Rashi explique Torah Shpirtav, d'étudier Torah Shpirtav. Ça veut dire que si on étudie Torah Shpirtav sans son commentaire de la loi orale, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est ce qui nous est arrivé par des lectures extérieures à la tradition juive qui ont essayé de comparer ceci avec l'incomparable, comparer le sacrifice d'Isaac avec la crucifixion, avec ceci, avec cela. C'est vraiment mélanger des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et je trouve que la vertu extraordinaire de l'explication de Rav Dessler, c'est qu'il n'explique pas un texte par la crainte qui peut, que peut inspirer son explication dans la mesure où il peut y avoir une confusion avec ceci ou avec cela. Si bien qu'il reste toujours présent dans le texte, sans que l'on puisse dire, mais si on explique comme ça, qu'est-ce que les chrétiens voudraient dire? Qu'est-ce que les philosophes vont dire? Qu'est-ce que les mystiques vont dire? Qu'est-ce que ceci va dire? Rav Dessler, qui est tout à fait authentique, qui a vécu dans la Yeshivot, qui a vécu dans la Torah, qui n'a vécu que là-dedans, et absolument là-dedans, a essayé d'expliquer en fonction d'un certain nombre de textes, en fonction de son inspiration profonde qui est dans le texte, et il n'a pas eu peur que l'on pourrait dire que ça pourrait ressembler ni à la crucifixion, ni à ceci, ni à cela. Et j'ai, moi, en tout cas, dans mon exposé la dernière fois, j'ai insisté sur le fait qu'il n'y a absolument rien à voir, et ça l'est très clair, entre ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé dans notre histoire d'Isaac, et le loco. Que l'on puisse dire qu'on a achevé ce qu'ils n'avaient pas fait, ça n'a rien à voir. J'ai cité, je voudrais le citer encore ce soir, un texte fort bien connu dans Zacharie, où il est dit la chose suivante, que un jour, Dieu a réuni son tribunal céleste, et dans ce tribunal se trouvait parmi eux le Satan. Dieu s'adresse au Satan et lui dit, d'où tu viens Satan? Et Satan de répondre, mais tourbe arrête, je fais le tour du monde. Alors Dieu lui dit au Satan, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, c'est dans Zacharie aussi. C'est le même texte. Non, attendez, excusez-moi. Le tourbarège. Je crois que ça existe aussi. Enfin, j'ai à voir. Je crois qu'il le dit. Allons voir. Alors, il y avait, et d'où tu viens, d'ailleurs, on compare le même Satan de Zacharie avec celui de Job. Et alors, il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu dans ce monde? Qu'est-ce que tu as vu dans le monde? Et Satan de répondre, je me suis promené dans la terre, et elle était bien calme. Et Satan de dire, ben, tout va bien, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et Dieu répond au Satan, comment? Tout est calme, mais c'est un silence coupable. Comment est-ce qu'on peut se taire au moment où Israël est soumis aux nations? Au moment où Israël est renvoyé de sa terre? Au moment où on empêche Israël, vous savez, c'était le temps de la reconstruction du temple, au moment où on empêche Israël de reconstruire son temple, etc., etc., le temps viendra où ces peuples paieront pour leur silence coupable, parce qu'il y a une sorte de conjuration du silence contre Israël pour que Israël ne construise pas son temple. En d'autres termes, Zacharie veut démontrer par là que si le temple a été détruit, ce n'est pas la culpabilité d'Israël, s'il y a faute, S'il y a holocauste, il n'y a pas de responsabilité d'Israël, mais responsabilité des nations. Ce sont les nations qui sont coupables. Et c'est une règle que lorsqu'Israël est attaqué dans son ensemble, Israël dans son ensemble n'est jamais coupable. Lorsque le tibour tout entier est attaqué, le tibour tout entier est kadosh. Il y a le Kedusha qui est étendu à tout Israël, il n'est jamais coupable. Donc, quand les nations attaquent Israël, il ne s'agit pas d'achever quelque chose qui n'a pas été achevé ou ceci, cela. Ça, c'est une mythologie goy qui n'a rien à voir avec les thèmes bibliques et qui veut qu'on rejette la responsabilité des nations sur Israël. C'est un thème psychanalytique bien connu. Les coupables sont bien connus. Les criminels sont bien connus. Nous, en tout cas, nous n'avons pas mérité ce qui nous est arrivé. Et si il y a problème de mort ou de vie ou de sacrifice, c'est parce que les problèmes fondamentaux de la vie et de la mort, dans le sens d'une mort qui est achèvement, ou au contraire une mort transfigurée, c'est le problème qui est posé ici, sans aucun rapport ni avec la crucifixion, ni avec le Holocauste. Il s'agit d'un problème fondamental de l'homme, et c'est le problème des Rav Dessler, parce qu'il ne veut pas simplement poser le problème sur le plan historique, mais sur le plan de la vie intérieure, sur le plan de la rencontre de l'homme avec son propre temps, sur le plan de sa durée intérieure. Est-ce que cette durée est une participation de l'éternité? Cette durée est limitée simplement par une mort biologique? Non, le sacrifice d'Isaac veut nous démontrer qu'il y a un dépassement de la mort biologique pour la participation à l'éternité. C'est l'idée de Rabelaiser.
Écoutez, je vous propose d'enchaîner. Toutes les citations qu'a fait David Messin sont exactes. Il n'en reste pas moins que je suis d'autant plus convaincu de ma propre opinion de tout à l'heure. Mais en fait, ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, je vous propose que l'on enchaîne.
Oui, ça c'est le premier chapitre.
Nous allons donc laisser la place aux questions et je demande aux intervenants de ne pas présenter un manifeste, mais de se contenter de questions extrêmement précises. D'autre part, en ce qui concerne les questions d'exégèse liées au cours de au séminaire sur le Midrash de M. Léon Ashkenazi le matin, lors de la dernière séance, c'est-à-dire demain matin, Manitou répondra à toutes les questions et conclura. La place est donc aux questions. Monsieur, je vous en prie.
De la transfiguration, de la mort transfigurée, qui pose à mon avis l'un des problèmes, des grands problèmes de ce siècle, le problème de la mort, le problème de la mort qui a triomphé très longtemps, plusieurs fois en ce siècle. Eh bien, d'abord, vous avez dit qu'il y avait une double interprétation possible de ce sacrifice